Vous écoutez, on lit pour vous.
Nos villes au front. Plus d'autonomie pour les villes à bout de souffle. Un texte de Jeanne Corriveau paru le 15 mai 2025 dans Le Devoir. Obligé de gérer une crise après l'autre quand l'eau déborde dans les sous-sols, que les moins nantis n'ont pas de toit et que la nature se déchaîne, les villes ont besoin de prendre le contrôle de leur destinée, estime François-William Croteau. Dans son essai « Nos villes au front », l'ancien maire de Rosemont-la-Petite-Patrie suggère une réforme qui accorderait une plus grande autonomie aux municipalités. On le dit souvent, les villes sont des créatures du gouvernement provincial, mais il est temps que ça change, fait valoir celui qui est aussi PDG de l'Institut de la résilience et de l'innovation urbaine, IRIU, et chroniqueur au Devoir. Contraint de prendre le chemin de Québec pour quémander des fonds au gouvernement, bien des maires se sont plaints de ce rôle ingrat dans le passé. Dans un essai de 100 pages bien tassé, François-William Croteau explore quelques éléments problématiques. Au-delà des questions d'aménagement du territoire, de collecte des ordures et de réparation des rues, sans oublier la gestion des bibliothèques, les villes doivent prendre en charge des responsabilités qui dépassent leur mandat, comme l'itinérance ou les catastrophes naturelles. Celles-ci pèsent lourd en matière de budget et de ressources. Je n'accuse personne en particulier. Je pense que c'est l'histoire de l'évolution du régime municipal québécois et son contexte politique aussi qui nous ont menés dans cette situation, dit-il en entrevue. Gestion locale des écoles. Pour illustrer son propos, l'ancien élu évoque des exemples à l'étranger. Mais il s'attarde particulièrement à la France dont le modèle, écrit-il, a des similitudes avec celui du Québec. En matière d'aménagement, il avance que pour développer un terrain qui lui appartient, la ville de Montréal doit se plier aux règles rigides des appels d'offres et du plus bas soumissionnaire. Dans le cas du quartier Namur-Hippodrome, elle s'est rapidement frappée à un mur devant le manque d'intérêt des promoteurs en raison des règles contraignantes. À Lyon, la ville a pu confier son projet de développement d'anciennes friches industrielles à la Société publique locale, SPL, Lyon Confluence, qui jouit d'une autonomie qui la libère des lourdeurs administratives. En termes de prévisibilité pour les promoteurs, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils négocient avec un partenaire qui a pour seule mission la réalisation du site. Ici, les gestionnaires à la ville sont débordés et gèrent plus de projets en même temps. François-William Croteau estime aussi que les villes devraient prendre en charge le parc immobilier des écoles. C'est d'ailleurs une idée qu'avaient évoquée les ex-maires Régis Labeaume et Denis Coderre en 2014. Selon lui, une gestion locale aurait l'avantage de mieux intégrer les écoles dans le milieu urbain et de stimuler l'innovation dans l'organisation scolaire. Au passage, suggère-t-il, on pourrait revoir le modèle de planification des écoles dans les nouveaux lotissements qui, dans les règles actuelles, ne peuvent réellement être réfléchis en amont, explique-t-il. Le Québec pourrait aussi s'inspirer du modèle français et de sa loi de réforme des collectivités territoriales en accordant à plusieurs villes québécoises un statut de métropole. Ça pourrait être un autre terme qui permettrait la mutualisation des ressources et une planification du territoire, des transports, notamment à l'échelle régionale. Gérer la mobilité. D'ailleurs, la question du transport pose problème au Québec, selon l'auteur. La création par le gouvernement québécois de l'Agence Mobilité Infra-Québec, chargée de planifier les projets de transport au Québec, va dans le sens inverse d'une autonomie salutaire pour les villes qui sont, souligne-t-il, les mieux placées pour connaître les besoins en matière de déplacement et de transport. La nouvelle agence va exacerber la situation actuelle. C'est évident. On éloigne encore plus la planification et la prise de décision du milieu, croit François-William Croteau. Ailleurs dans le monde, de nombreuses villes peuvent développer leur réseau de métro et de tramway. À l'heure actuelle, le seul pouvoir qu'ont Montréal et Québec, c'est de peinturer des pistes cyclables et de faire des voies réservées d'autobus. Il faut changer ça. Et il y a évidemment le financement et le déséquilibre entre les revenus et les responsabilités des villes. À titre d'exemple, le Grand Prix et les festivals ont d'importantes retombées économiques dans la métropole, mais la ville n'en tire aucun revenu. Au contraire, elle doit payer pour les services d'ordre, le mobilier et la propreté. 100% des taxes générées par les activités commerciales de ces événements-là sont envoyées à Québec, dit-il. Avec son essai, François-William Croteau ne croit pas que les maires actuels en apprendront beaucoup sur les problèmes qu'ils connaissent trop bien. Mais les candidats aux élections de novembre 2025 pourront avoir un portrait de la situation qui les attend. Une campagne électorale, c'est un bon moment pour débattre. C'était « Nos villes au front, plus d'autonomie pour les villes à bout de souffle », un texte de Jeanne Corriveau paru le 15 mai 2025 dans Le Devoir.
L'effet boomerang des contre-tarifs d'Ottawa. Un texte de Sylvain Charlebois paru le 15 mai 2025 dans La Presse. Ce n'est pas le patriotisme économique qui coûte cher. C'est l'illusion qu'on peut le faire sans conséquence pour le consommateur. Alors que les tensions commerciales s'apaisent entre Washington et plusieurs de ses partenaires stratégiques, le Canada maintient une posture tarifaire isolée et coûteuse. Cette semaine, Per Bank, président de Loblaw, a lancé un avertissement. Une nouvelle vague de hausse de prix liée aux contre-tarifs canadiens déferlera bientôt sur les tablettes de ces magasins. Pour les consommateurs, cela signifie un nombre croissant de produits affichant un discret mais éloquent symbole, le T, signalant un article frappé par des mesures tarifaires. Certains cyniques y verront une tentative de diversion de la part de Loblaw. Pourtant, le phénomène dépasse largement cette entreprise. Tous les grands détaillants seront touchés. À ce jour, environ 1000 produits portent déjà la marque T chez Loblaw, un chiffre qui pourrait grimper à plus de 6000 d'ici 2 mois, à mesure que les stocks s'épuisent et que les nouveaux arrivages reflètent les surcoûts liés aux droits de douane. Et ce ne sont pas seulement les produits directement visés qui sont en cause. Les effets indirects s'accumulent, notamment pour les transformateurs alimentaires qui doivent composer avec des hausses soutenues sur les ingrédients importés. Depuis le 4 mars 2025, le Canada a imposé plusieurs vagues de contre-tarifs de 25 % sur des biens américains en riposte aux mesures protectionnistes de l'administration Trump. Ces surtaxes couvrent une vaste gamme de produits, jus d'orange, beurre d'arachide, vin, bière, café, électroménager, vêtements, outils, cosmétiques et autres biens de consommation. En tout, près de 60 milliards de dollars d'importations sont désormais visés. Le secteur agroalimentaire est particulièrement vulnérable à ces frictions commerciales en raison de ses marges étroites et de sa dépendance à certaines importations stratégiques. Ottawa cible environ 5,1 milliards de dollars de produits agricoles américains, produits laitiers, volailles, fruits frais, ingrédients de confiserie, bouillon, condiments, céréales, riz, etc. Certains articles phares, comme le bourbon du Kentucky, ont déjà déserté les tablettes canadiennes. Et depuis avril, tout véhicule américain ne respectant pas les règles d'origine de l'accord Canada-États-Unis-Mexique est maintenant frappé lui aussi d'un droit de douane de 25 %. Dans ce contexte, de nombreux manufacturiers n'ont tout simplement pas de solution de rechange viable. Pour bon nombre d'ingrédients ou de composants, les États-Unis demeurent le seul fournisseur accessible à court terme. Résultat, des coûts plus élevés, peu de substituts et, ultimement, un transfert de la facture au consommateur. Certes, le gouvernement Carney a tenté de contenir les effets de la guerre commerciale en épargnant de droits de douane certains produits bruts et en maintenant le dialogue avec Washington. Mais, selon plusieurs sources, Ottawa envisagerait d'étendre ses contre-mesures jusqu'à hauteur de 125 milliards de dollars. Les droits toucheraient cette fois les fruits et légumes, le bœuf, le porc, les produits laitiers, les véhicules électriques et divers biens électroniques. Une escalade qui mettrait en péril notre sécurité alimentaire et la compétitivité de notre industrie. Ce virage tarifaire inflige aux Canadiens une double peine. Une hausse des prix combinée à une réduction du choix. Ironiquement, malgré les politiques tarifaires agressive du président Trump, l'inflation alimentaire aux États-Unis a reculé à 2,0 % en avril pour les aliments achetés en magasin, un taux qui est maintenant inférieur à celui du Canada. En théorie, les droits de douane devraient faire grimper les prix. Ce n'est pas le cas chez nos voisins. Leur marché, plus dense et plus concurrentielle, absorbe mieux les chocs tarifaires. Le Canada, lui, n'a pas ce luxe. Le message de nos épiciers est limpide. Il est temps de revoir notre approche en matière de contre-tarifs. C'était l'effet boomerang des contre-tarifs d'Ottawa. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 15 mai 2025 dans La Presse.
Seul dans un coin, une chronique de Félix Morin, paru le 7 avril 2025 dans Les libraires. J'adore lire dans un café. C'est le lieu où j'arrive à me plonger entièrement dans un livre, sans doute parce qu'alors dépouillé de la quotidienneté. Depuis un an, c'est la rédaction de chroniques qui s'est rajoutée à ma routine dans ce lieu. Il me semble y avoir, d'ailleurs, dans cette activité, une mise en abîme du métier de chroniqueur, chercher à faire sens dans le bruit incessant du monde. Mais parfois, quand la cruauté prend toute la place, il n'y a pas d'autre explication que la brutalité. Quand la violence se déchaîne, aucun lieu n'est sûr. Elle nous trouve toujours. Sortir de l'ombre. Les élections américaines ont été pour moi une occasion de lire la réédition augmentée de l'essai de Mathieu Bellil, L'Empire invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique. Ce livre est indispensable aujourd'hui parce qu'il nous permet de comprendre la nature du pouvoir américain. L'une des idées fortes de ce livre est que les puissances les plus agissantes se trouvent dans l'ombre. Il s'agit des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Si on rajoute le réseau social X, on comprend que le pouvoir américain s'est invisibilisé au point de faire partie intégrante de nos vies. Ce nouveau visage de la domination, comme le nomme si justement l'auteur, a donné une force incroyable aux idées et débats provenant du sud de notre frontière. L'actualité, depuis l'élection du 5 novembre, lui donne raison. Nul ne nous oblige à participer au débat qui le déchire. Et pourtant, Non seulement nous suivons ces débats, mais nous tenons chez nous, en recourant aux mêmes termes et parfois à la même histoire, comme s'ils étaient les nôtres. La seule différence est la suivante. Nous sommes maintenant les antagonistes de cette histoire. Avec cette guerre de tarifs, la manière avec laquelle l'homme le plus riche au monde a interpellé le Premier ministre du Canada sur son réseau social et les blagues de ce président sur la création d'un 51e État, nous ne sommes plus les spectateurs de cette histoire. C'est ce changement spectaculaire et rapide de récit qui a fait monter en moi une forme d'angoisse à la fois diffuse et fondée. Je ne sais pas comment le dire autrement. Rien n'est plus terrifiant que le pouvoir lorsqu'il se présente sous son vrai visage. Je l'écris à regret, mais depuis le 20 janvier 2025, je ne vis plus dans le monde décrit par Mathieu Bellil. L'Empire américain n'est pas un empire comme les autres, dans la mesure où il n'a jamais nourri l'ambition de conquérir formellement le monde, où il a toujours pris soin de se nier en tant qu'empire. Il ne prétend pas dominer par la force brute, du moins pas ouvertement. Il ne cherche pas à accroître son espace vital au prix de guerres de conquête. Il ne vise pas à établir un gouvernement répressif, total, qui priverait ses sujets de leur liberté. La règle du jeu a changé. Les GAFAM étaient aux côtés du président. L'Empire est sorti de l'ombre. Échoué une seconde fois. Cette sortie au grand jour s'accompagne d'un sentiment de peur chez des groupes minoritaires. Une personne proche de moi, avocate en immigration, m'a expliqué qu'au sein des groupes LGBTQ2+, américains, certaines personnes, inquiètes des représailles à venir, commencent à s'organiser pour quitter le pays. La révocation des passeports avec la mention X, pour le genre, rend légitime et concrète cette peur. Lorsque les minorités veulent quitter un pays, ce n'est pas bon signe pour une démocratie. C'est affolant. Il ne faut pas oublier que dans La Servante écarlate, c'est vers le Canada que les citoyens fuyaient. L'écrivain américain Eddie L. Harris sait ce qu'est la fuite. Dans son plus récent essai, Confession américaine, il se demande ce qu'il a fui exactement en quittant les États-Unis pour la France. Pour cet essayiste, dès la fin des années 1970, la montée de la droite religieuse a commencé à refaçonner la scène politique américaine. Ce mouvement conservateur, qu'on associe souvent à la lutte contre l'avortement, selon Harris, a un programme politique qui dépasse largement cette question. Pour ce romancier, c'est la question raciale qui est au cœur de ce qui se joue aujourd'hui. Le Sud a perdu la guerre de sécession, mais gagner celle de la ségrégation. Le Sud l'emporte toujours. La force de cet essai est qu'il est capable de remonter, à partir de son histoire personnelle et familiale, les routes de cette violence qui est aujourd'hui canalisée chez une masse considérable d'Américains, tout en pointant la responsabilité d'agir. Le monde nous regarde, nos enfants nous regardent, nous ne pourrons pas éternellement nier la puanteur et l'infamie, sans quoi ça recommencera. Trop peu, trop tard, c'est revenu. La catastrophe est en cours. Pleurer dans son coin. M'arrachant des cheveux que je n'ai plus, j'ai soupiré un peu trop fort peut-être. Une minute plus tard, mon café préféré arrivait à côté de mon ordinateur. Le propriétaire du café avait dû voir le désespoir dans mes yeux. Il est reparti vers sa machine, sans rien dire, et n'acceptera pas mon argent au moment de régler. La sollicitude trouve toujours son chemin. Mon pied bougeait rapidement sur le tabouret. je parcourais les livres de Matthew Bellil et d'Eddie L. Harris, et rien ne venait. Comment conclure une dystopie? J'ai mis alors mes écouteurs et j'ai sélectionné un album de Simon et Garfunkel. Une mère traversait la rue avec son enfant. America se met à jouer. Je lis un texte sur un président voulant envoyer 30 000 immigrants dans une zone de non-droit, connue pour ses pratiques de torture et de détention illégale. Au même moment, un couple partage un croissant et un regard à la table en face. Mon café se vidait à vue d'œil. La tête entre les mains et les dents serrées par la colère, j'entendais les deux musiciens chanter à répétition « They all come to look for America ». Les larmes se sont mises à couler. Seul dans un coin du café, j'ai craqué. La violence nous trouve, toujours. C'était « Seul dans un coin », une chronique de Félix Morin, parue le 7 avril 2025 dans Les Libraires.
Encore de nombreux cas de la maladie de Lyme attendus au Québec en 2025, un texte de Florence Morin-Martel paru le 19 mai 2025 dans Le Devoir. La maladie de Lyme continue de gagner du terrain. Tôt dans la saison, une soixantaine de cas ont déjà été déclarés en 2025 au Québec, selon des chiffres obtenus auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS. Du 1er janvier au 14 mai 2025, 61 cas ont été déclarés au Québec, notamment 26 chez des personnes résidant en Estrie, 12 en Outaouais et 9 en Montérégie. En 2024, un nombre similaire de cas avait été recensé dans la province pour cette même période de l'année, soit 68. On peut donc s'attendre cette année à une saison au moins aussi importante que ce qu'on a vu l'an passé, estime le docteur Alex Carignan, microbiologiste infectiologue et professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il est également titulaire de la chaire de recherche sur la maladie de Lyme et les infections émergentes. En 2024, le nombre total de cas de maladie de Lyme déclarés au Québec a atteint un sommet historique de 834, selon les données préliminaires transmises par le MSSS. Il était de 652 en 2023 et de 586 en 2022. Au Québec, cette maladie se transmet par la piqûre d'une tique à pattes noires porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi. Les premiers symptômes qui se manifestent généralement dans le mois après la piqûre comprennent notamment de la fièvre et une rougeur qui grossit pour atteindre plus de 5 cm de diamètre. La maladie se traite avec des antibiotiques. Elle peut cependant entraîner des complications si elle n'est pas détectée et traitée rapidement. Dans les semaines et mois suivant une piqûre, des symptômes comme des engourdissements, des douleurs à la nuque, des maux de tête importants et la paralysie du visage peuvent apparaître. Globalement, depuis une quinzaine d'années, on a une augmentation constante de l'incidence de la maladie de Lyme dans la province, souligne le docteur Carignan. Les changements climatiques seraient en cause, explique-t-il. La tique à pattes noires peut désormais survivre et se développer plus facilement en raison des hivers moins rudes et moins longs. On voit que les gens retrouvent des tiques sur eux et se font piquer plus tôt dans l'année qu'auparavant, affirme de son côté Karen Leblanc, directrice générale de l'Association québécoise de la maladie de Lyme, AQML. Vers de nouvelles régions. Ces dernières années, le territoire des tiques à pattes noires s'est également étendu, indique le docteur Carignan. Étant donné qu'elles voyagent à vol d'oiseau, on peut voir des cas de la maladie dans des régions plus au nord, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou l'Abitibi-Témiscamingue. Mais c'est certain que pour l'instant, je dirais que la tique n'est pas aussi bien implantée en Abitibi qu'elle l'est dans le sud, par exemple. Dans certains endroits où la maladie est apparue récemment, certains professionnels de la santé peuvent avoir de la difficulté à la détecter, dit le microbiologiste infectiologue. C'est donc très possible que certains cas passent sous le radar. On tente toutefois d'améliorer les connaissances des travailleurs de la santé au sujet des infections qui sont transmises par les tiques, soulève-t-il. Globalement, depuis une quinzaine d'années, on a une augmentation constante de l'incidence de la maladie de Lyme dans la province. Au Québec, il faut aussi faciliter l'accès aux traitements antibiotiques préventifs pour les gens qui se font piquer par des tiques, relève-t-il. Le médicament, qui peut être offert dans certaines situations, doit notamment être administré dans les 72 heures suivant le retrait de la tique. En théorie, le protocole est là, mais en pratique, on entend parfois des histoires de patients qui ont consulté des professionnels de la santé qui n'étaient pas encore familiers avec ce traitement, poursuit le médecin. Karen Leblanc constate que les Québécois sont très préoccupés par la maladie de Lyme. « Je vois une population qui est au courant par rapport à la maladie, mais c'est certain qu'il faut qu'ils sachent quoi faire pour la prévenir. » Le docteur Carignan estime d'ailleurs que l'on doit mettre davantage l'accent sur l'importance de vérifier si l'on a une tique sur soi après avoir passé une journée en plein air. À l'heure actuelle, le médecin participe également à un projet pour évaluer les connaissances de nouveaux arrivants à propos de la maladie. On a l'impression que certains d'entre eux sont peut-être moins bien au fait de la maladie. On cherche des moyens pour améliorer cette situation. D'autres maladies. Hormis la maladie de Lyme, d'autres maladies transmises par la tique à pattes noires sont en émergence et doivent être surveillées, note le docteur Carignan. En 2021, on a vu l'arrivée de l'anaplasmose en Estrie, relate-t-il. Les premiers symptômes de cette infection bactérienne ressemblent à ceux d'une grippe, détaille-t-il. Or, des gens qui sont âgés ou immunosupprimés peuvent développer de graves complications, comme de la difficulté à respirer ou des hémorragies. Certains patients doivent même être admis aux soins intensifs, soulève le microbiologiste infectiologue. De son côté, l'Association québécoise de la maladie de Lyme se dit préoccupée par la progression d'autres maladies dont la tique à pattes noires est vectrice. On souhaite qu'il y ait plus de recherches et de données à ce sujet, souligne Karen Leblanc. C'était encore de nombreux cas de la maladie de Lyme attendus au Québec en 2025, un texte de Florence Morin-Martel paru le 19 mai 2025 dans Le Devoir.